rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires. Une émission animée par Nathalie Croiset.
On ne cesse de le dire, hein, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Philippe Pelletier, le président du plan bâtiment durable, en parlait d'ailleurs en introduction. Chaque mois, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous faisons un focus sur une région pour mieux comprendre la stratégie mise en place et ses impacts. Donc un vrai tour de France, on va dire, durant toute l'année. À l'honneur ce mois-ci, l'Occitanie. On va parler spécifiquement de sobriété énergétique et d'énergie renouvelable avec trois intervenants, évidemment, en visio. On leur a pas demandé de se déplacer jusqu'ici dans les studios de Bâti Radio à Paris. Raphaël Viennot, bonjour. Alors, Raphaël Viennot nous entend-elle? Est-elle
bonjour.
Avec nous? Bonjour.
Oui,
parfait.
Je vous entends, excusez-moi.
Je vous en prie, je vous voyais pas. Directrice adjointe transition énergétique et économie circulaire au sein du Conseil de la région, hein, Occitanie. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter?
Directrice adjointe, effectivement. Oui. Donc, je suis tous les sujets relatifs à la transition énergétique et à l'économie circulaire pour la région Occitanie.
Très bien. Donc, vous allez nous éclairer, évidemment, sur la démarche de la région. C'est important d'en parler, parce que c'est une région qui a des ambitions fortes en la matière. Ilona Pior, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes directrice d'Envirobat Occitanie, un centre de ressources. Quelques mots, là encore, pour vous présenter?
Oui, donc directrice d'Envirobat Occitanie, qui est un centre de ressources, mais et surtout, je dirais, un réseau d'acteurs, un réseau d'acteurs professionnels qui représente finalement toute la chaîne de l'acte de construire et d'aménager, implanté à la fois sur Montpellier, mais également sur Toulouse, donc avec ce rayonnement à l'échelle régionale.
Merci à vous. Vous allez nous donner évidemment des exemples d'accompagnement en duo, on va dire, avec Raphaël Viennot. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir des retours d'expérience. Ça va être le cas avec Philippe Gonsalves. Bonjour.
Bonjour.
Qui est donc architecte, un cofondateur de Seuil Architecture. Quelques mots pour vous présenter. Tout à l'heure, vous allez nous parler alors d'un projet de réhabilitation qui date pas d'hier, mais ce qui est intéressant, si c'est le retour d'expérience par rapport à ce projet. Quelques mots d'abord pour présenter Seuil Architecture.
Oui, merci. Donc, effectivement, une agence d'origine toulousaine construite en 2005 et aujourd'hui qui représente à peu près d'une quinzaine de personnes sur une vision très large, en fait, de la mission de maîtrise d'œuvre pour accompagner au mieux nos maîtres d'ouvrage, nos clients dans ces projets très engagés sur les questions environnementales.
Alors, vous allez témoigner tout à l'heure, évidemment, de ce projet de réhabilitation dont je parlais à Toulouse. Mais tout d'abord, Raphaël Viennot, c'est un petit important aussi de mettre en avant aussi ce que fait la région avant d'arriver spécifiquement aussi aux enjeux de rénovation énergétique. Et évidemment, toute votre démarche l'inclut largement. Des grandes ambitions, je disais, un objectif de première région d'Europe à énergie positive, c'est ça, à l'horizon 2050?
Oui, c'est effectivement l'ambition que poursuit la région, devenir la première région à énergie positive d'ici 2050. C'était une ambition qui est portée par notre présidente, Carole Delga, et qui a pour objectif de couvrir 100% de nos consommations d'énergie par la production d'énergie renouvelable locale d'ici 2050. Donc, ce scénario se décline donc par grands secteurs et des objectifs ont été fixés donc pour ces grands secteurs, notamment celui du bâtiment, avec un objectif donc de réduction de 26% de la consommation d'énergie du secteur du bâtiment d'ici 2050.
Ah, c'est pour ça que je parlais de sobriété énergétique aussi. C'est sans enjeu là aussi.
Voilà, tout à fait. Et l'enjeu porte bien sur la réduction des consommations d'énergie, avec notamment le secteur de la rénovation énergétique, hein, qui est un vrai défi. L'objectif, c'est d'accélérer le rythme de rénovation. Et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de porter ce rythme de rénovation à 52 000 rénovations performantes d'ici 2030, et après d'augmenter sensiblement le rythme et de passer à 75 000 logements rénovés entre 2030 et 2050, avec peut-être une petite inclinaison à partir de 2040, puisqu'on aura déjà bien rénové donc le stock de logements.
C'est une grande ambition.
Voilà, la rénovation, c'est une priorité et l'ambition porte également évidemment sur le neuf, hein, puisqu'on est une région aussi qui a une forte croissance démographique, donc il va falloir continuer à construire. Et là, l'ambition porte sur donc construire en priorité donc des logements BBC ou passifs.
Ou passifs. Alors, vous êtes évidemment sur le résidentiel, beaucoup vous en avez parlé, mais vous travaillez, j'allais dire, d'une certaine façon aussi sur le tertiaire.
Oui, tout à fait. Donc, sur le tertiaire, l'objectif est aussi important, hein, de réduire, on espère pouvoir réduire de 40% donc, la consommation d'énergie du secteur tertiaire d'ici 2050. Donc, on a tout un travail là qui est en cours et qui a démarré pour affiner nos hypothèses et nos objectifs sur le secteur tertiaire, en tenant compte notamment du décret tertiaire qui est sorti, tenir compte des différentes branches du secteur tertiaire. Donc là, on a un travail de scénarisation qui sera achevé d'ici fin juin et qui porte donc sur quatre branches du secteur tertiaire, donc les bâtiments d'enseignement, tout ce qui est habitat communautaire, les bureaux, bien entendu, et les commerces.
Alors, Ilona Pior, peut-être un petit commentaire sans rentrer encore dans trop de détails. On parlera évidemment tout à l'heure. Là, l'idée, c'est vraiment de planter le décor et de mieux comprendre les enjeux globaux de la région Occitanie.
Oui, alors c'est vrai que Raphaël a bien planté l'ambition de la région, puis globalement nos partenaires. Et ce qui s'est passé au sein d'Envirobat Occitanie, finalement, c'est que il y a à peu près 2 ans, les administrateurs et les adhérents se sont vraiment rassemblés pour finalement redéfinir la stratégie de l'association pour répondre au mieux et accompagner au mieux cette ambition régionale. Cela a consisté d'une part à bien redéfinir l'objectif d'Envirobat, hein, Occitanie, qui est la réduction finalement de l'empreinte environnementale à la fois des bâtiments et des quartiers. Et dans ce cadre-là, de clairement identifier 4 grands domaines d'activité stratégique sur lesquels nous adossons chaque année nos différents plans d'action. Pour faire très bref, finalement, cette stratégie et ces 4 domaines d'activité stratégique se résument en donner finalement la priorité dans nos actions à tout ce qui existe, que ça soit à l'échelle du bâtiment et du quartier, et d'optimiser l'articulation de nos interventions sur ces 2 échelles. Cela consiste à bien sûr soutenir la rénovation, je dirais durable, du bâti existant. Je dis durable parce qu'évidemment, on accompagne la rénovation énergétique très fortement et on va avoir une approche, je dirais, un peu plus globale de cette rénovation en mettant l'accent aussi sur le volet environnemental, mais pas que. Bien sûr, comme l'a dit Raphaël, nous devons continuer à accompagner la partie construction et dans ce cadre-là, nous avons vraiment décidé de mettre l'accent sur les innovations, sur les constructions vertueuses de bâtiments neufs. Le troisième domaine d'activité stratégique est davantage finalement d'identifier quelle intervention on peut avoir pertinente à l'échelle des quartiers sur les projets d'aménagement de manière à ce qu'ils soient, je dirais, les plus frugaux possibles. Et quand je parle de projets d'aménagement, c'est à la fois évidemment dans les zones urbaines, mais aussi dans les zones rurales qui composent notre région. Et puis enfin, le dernier domaine d'activité stratégique, c'est le volet matériaux qui vient finalement répondre aux 3 premiers. Comment finalement on peut soutenir au mieux les filières locales de matériaux biosourcés, géosourcés, les articuler avec les filières plus conventionnelles bas carbone et aussi s'intéresser à tout le sujet du réemploi et la structuration de ces filières sur lesquelles il y a beaucoup de demandes de nos adhérents aujourd'hui.
Voilà, beaucoup d'axes. Alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en proposant donc cette illustration avec vous, Philippe Gonsalves, de ce projet de réhabilitation, même pas projet, maintenant c'est une réalité, réhabilitation bioclimatique de logements proche de la gare Matabio à Toulouse. Alors à l'époque, c'était basé sur la RT 2012, hein, puisque c'était la date de 2013, c'est ça ?
Exactement, ouais, les travaux ont été terminés en 2013, donc on était sur la base RT 2012 avec un objectif qui était d'atteindre quasiment à l'époque le niveau BBC 9 en fait, à travers cette rénovation. Donc effectivement, ce projet, il date un petit peu, 2013, mais il, effectivement, comme vous dites, il a l'avantage maintenant de nous amener des éléments concrets en fait d'expérience sur ce projet. Un petit mot de toute façon en amont déjà pour vous dire que en fait on se plaît à travailler sur ce type de projet en parlant de rénovation globale en fait générale et non pas de rénovation énergétique. Et c'est à mon sens sur cet item-là que l'on devrait promouvoir plus largement la question de ces enjeux des bâtis existants. Et ce projet le révèle énormément puisque évidemment que nous avons travaillé la question de la consommation énergétique et avec des éléments très probants aujourd'hui en plus avec le retour d'expérience, mais pas que. Et effectivement, beaucoup d'autres points ont permis d'être développés sur ce projet-là. Puisqu'on avait donc une configuration, on va dire, très caricaturale du parc immobilier de logements des années 50-60 de notre territoire, avec donc des systèmes constructifs majoritairement béton ou construction traditionnelle maçonnerie, sans isolant. Donc, gros
Donc un peu une
problème
passoire en
de.
fait, pour résumer.
Évidemment, une passoire énergétique, donc compensée par un chauffage central sur ce projet-là qui était au gaz. Et puis, en plus de ça, des gros problèmes de qualité de l'air intérieur parce que des condensations importantes sur les parois, ces chocs thermiques entre l'air chaud intérieur et le froid à travers ces murs-là. Des défauts de ventilation naturelle énorme parce que uniquement basé sur des flux naturels d'air au travers des conduits shunt qui, avec le temps, l'encrassement, le manque de nettoyage, etc., fait que bah, c'est peu d'air qui circulait in fine. Et donc, rajouter à ça ce diagnostic purement, on va dire, thermique et qualité de l'air, ce qu'on a analysé, nous, comme enjeu, c'était un enjeu d'usage, puisque, effectivement, cet immeuble-là, placé dans un contexte très favorable, vous l'avez précisé, face à très proche des communautés et de la gare, mais surtout
Oui,
face au
il y avait
canal
un
du
lien,
Midi.
il y avait voilà, c'était aussi il y avait l'espace public aussi dont il fallait tenir compte finalement dans ce
Exactement.
projet.
Donc, face au canal du Midi, donc un enjeu de relations importantes et visuelles très agréables pour les logements, alors qu'ils ne bénéficiaient pas d'espace extérieur qualitatif. On avait un balcon de 80 cm de large qui, à part stocker quelques éléments qui n'entraient pas dans le logement, ne servait pas à grand-chose. Et en plus de ça, se rajoutaient tous les enjeux acoustiques du site à travers le boulevard devant entre le canal et l'immeuble, mais surtout avec la voie ferrée qui était juste derrière. Et donc des gros enjeux d'acoustique du bâtiment qui venaient rajouter une complexité à l'usage. Donc tout ça a fait que ça constituait un shake-up dans lequel on a essayé de travailler pour apporter des réponses les plus globales au projet. Et
Alors, vous avez
effectivement, un
travaillé
point.
comment sur l'enveloppe, mieux comprendre. Il y a plein d'aspects finalement qu'on va aussi développer avec nos deux autres intervenantes parce que il y a la question de la performance énergétique de l'enveloppe. Il y a aussi les nouveaux systèmes de chauffage. Hein, vous parliez de gaz tout à l'heure. L'intégration aussi des énergies renouvelables. Hein, ça aussi, c'est un point qui a été qui est à soulever, si je puis dire.
Oui, exactement. Donc la première réflexion était d'entrée de jeu de limiter cette passoire, donc d'améliorer l'enveloppe qui s'est traduite par une isolation par l'extérieur assez simplement aujourd'hui sur les façades qui étaient accessibles, avec le petit regret aujourd'hui de ne pas avoir poussé la solution d'isolation en biosourcé, mais voilà, on ne pouvait pas tout intégrer à l'époque sur ce projet-là. Néanmoins, donc, on a retravaillé les façades existantes ainsi que la toiture pour ramener un niveau d'isolation important et de toute façon qui n'existait pas déjà sur les façades. On a maintenu du coup la qualité de l'inertie intérieure des parois lourdes qui a mené aussi du coup un confort important de rayonnement de la chaleur. Les menuiseries n'ont pas été remplacées parce qu'elles avaient été juste quelques années auparavant. Et donc, on a maintenu les menuiseries existantes. On a travaillé avec la ventilation pour y intégrer une ventilation, en fait, une aide à la ventilation basse pression pour maintenir les réseaux existants. mais en venant forcer un peu par une mécanisation là-dessus. Donc voilà, pour remettre en place un système de ventilation naturelle minimum important avec une gestion de l'hygrométrie. Et après, le gros paquet était une fois qu'on ben, on a réduit maintenant ces déperditions et ces consommations, c'est de trouver la meilleure source d'énergie pour du
Oui.
coup répondre aux besoins qu'on a énormément diminués, hein, évidemment. Donc, on a remplacé la chaufferie centrale gaz par une station géothermie verticale collective. Donc avec 7 forages qui ont été réalisés dans l'arrière du projet, dans le parking, 7 forages verticaux qui ont alimenté la totalité du réseau, ça ce qui était important, du réseau existant de chauffage. Donc on a maintenu l'ensemble des réseaux intérieurs des logements et des radiateurs acier de l'époque, hein, qui ont été purgés, mais qui ont été maintenus. Donc assez peu d'intervention du coup pour cette partie-là sur les logements. Et on a donc bénéficié d'une source de géothermie, donc renouvelable, pour le chauffage et, chose nouvelle aussi qu'on a modifiée, l'eau chaude sanitaire, puisqu'elle était initialement traitée par des ballons d'eau chaude électrique à l'intérieur de chaque logement. Donc on a aussi du coup rapatrié l'eau chaude, et là pour le coup, aujourd'hui, le retour d'expérience
Oui, c'est ce que j'allais vous
concrète
dire, parce que
sur ce
maintenant,
projet-là, voilà.
depuis, on va dire, 8-9 ans, maintenant, ça commence à
Depuis
avoir.
9
Oui.
ans,
Ouais.
on a donc un bailleur social qui aujourd'hui est complètement convaincu des solutions mises en place et l'a décliné avec nous et puis sur d'autres projets au travers de cette géothermie notamment. Mais on a réduit de 2,5, on a divisé par 2,5 la consommation du bâtiment, ce qui est énorme. La traduction directe, c'est un turnover beaucoup plus, enfin beaucoup moins important des locataires sur le projet. Les deux autres aspects positifs qui reviennent sur le projet, c'est le traitement acoustique des logements qui a été nettement amélioré et l'usage à travers effectivement, ces espaces extérieurs que l'on a permis au travers en fait l'extension de balcons qui ont été plugués sur la façade lors de notre intervention de traitement des façades. Donc on a du coup une deuxième vie en fait du bâtiment qui naît attachée à l'évolution des usages.
Oui, alors ça,
Et
on va en parler. Alors ça, c'est un autre aspect, parce que les usages aussi, c'est quelque chose, on va dire, que met en avant la région. Donc ça, c'est l'autre volet aussi de cet aspect et de votre témoignage. Mais je voudrais faire réagir tout d'abord Raphaël Viennot. On l'a vu à travers ce projet, hein, des vraies ambitions en matière d'énergie renouvelable, hein, 160 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Philippe Gonsalves parlait du remplacement de la chaufferie par géothermie verticale. Ça, ce sont évidemment des choses, la géothermie, notamment pour les lycées, par exemple, vous y mettez en place.
Oui, tout à fait. Tenir une région énergie positive va nécessiter de fait de développer fortement les énergies renouvelables. Donc, c'est une multiplication d'ailleurs par 3 de la production d'énergie renouvelable hein, qui doit être atteinte d'ici 2050. Le secteur du bâtiment, c'est un champ formidable pour développer les énergies renouvelables. Donc, on le voit bien, et aussi bien pour les ENR thermiques. Le chauffage avec la géothermie. Dès aujourd'hui, en fait, nous, région, on l'applique sur notre propre patrimoine, notamment sur les lycées, hein, qui sont des lieux aussi propices, on va dire, d'expérimentation pour mettre en place ces nouvelles énergies. Donc, on a un certain nombre de lycées aujourd'hui qui vont être équipés en géothermie, en photovoltaïque, en chaufferie bois également. Et c'est également quelque chose que l'on promeut. Dans tout le secteur effectivement tertiaire et résidentiel. Donc l'objectif, c'est vraiment à terme de se passer, on va dire, d'énergie conventionnelle et de développer au maximum donc la part des énergies renouvelables dans les usages énergétiques du bâtiment.
Alors pour développer aussi tout cet aspect-là, hein, ça c'est l'un des aspects, il y a l'accompagnement hein, dont je parlais un peu en introduction, et notamment Rénov' Occitanie.
Oui, alors Rénov' Occitanie, c'est notre service public régional de la rénovation énergétique. Donc là, on est vraiment sur la réduction de la consommation d'énergie des logements. Mmh. C'est un service public qui a été lancé au 1er janvier 2021 et qui a pour objectif de proposer aux ménages donc, un parcours d'accompagnement pour accélérer, on va dire, les travaux de rénovation énergétique. Donc, un parcours d'accompagnement, ça démarre donc par une offre, on va dire, de conseils personnalisés que le ménage peut trouver donc au sein des guichets Rénov' Occitanie. C'est aujourd'hui 32 guichets Rénov' Occitanie qui sont implantés sur le territoire régional et qui ont pour vocation d'accueillir, d'informer le particulier et de l'accompagner tout au long de sa démarche. Pour donc même jusqu'à la réalisation des travaux, même jusqu'au suivi des travaux. Donc ce parcours, il est au cours de ce parcours, le particulier peut bénéficier du soutien de la région pour la réalisation d'un audit énergétique qui lui permettra donc d'orienter sa décision entre deux scénarios de travaux, mais également aussi un chiffrage des travaux à réaliser et un bilan des aides auxquelles il peut prétendre pour diminuer le reste à charge. Et puis, ensuite, une prestation d'accompagnement. Donc là, on est plus sur voilà, l'accompagnement, l'aide, l'appui, on va dire, à la conduite de chantier. Et puis, le particulier va également bénéficier d'un prêt, puisqu'avec notre agence, qui est l'Agence régionale de l'énergie et du climat, on a mis en place un dispositif de tiers financement, c'est-à-dire une mini-banque régionale, qui est aujourd'hui en capacité d'accorder des prêts à des taux assez attractifs aux particuliers pour donc financer les travaux de rénovation énergétique de leur logement. Donc, vous voyez, ce dispositif est assez complet. On parle véritablement de parcours et il permet aussi, bien entendu, donc, d'ajouter d'autres briques, donc, puisqu'il y a d'autres aides hein, qui sont notamment attribuées par l'ANA. Donc, on est complémentaire. Il y a également l'éco-chèque logement de la région. Et donc, juste jusqu'à aussi cette possibilité donc, de bénéficier d'un prêt à taux attractif.
Alors, il y a aussi Ilona Pior hein, dans ce Rénov' Occitanie, qui est vraiment une spécificité, on va dire, de la région, d'aider aussi, d'accompagner les professionnels.
Alors là, évidemment, nous, dans le cadre de notre mission générale d'accompagner les professionnels dans les transitions, dans le cadre de leurs activités, bien évidemment, très en amont, nous nous sommes positionnés aux côtés de la région Occitanie et puis de leur agence, la REC, pour voilà, intervenir sur la partie mobilisation des professionnels dans le cadre de ce dispositif. Et ce que l'on a souhaité fort de notre réseau hein, de près de 200 adhérents, c'est vraiment de proposer une logique de mutualisation. Et cela, finalement, pour faciliter le passage à l'acte. On voit bien que Rénov' Occitanie, comme l'a exprimé Raphaël, c'est vraiment un accélérateur des chantiers de rénovation des logements privés. Et donc, dans ce cadre-là, il faut bien évidemment que l'offre en face se tienne, soit vraiment disponible et en ordre de marche. Et dans ce cadre-là, les guichets Rénov' Occitanie ont un rôle à jouer sur les territoires auprès de leurs professionnels. Et nous proposons à l'échelle régionale, finalement, d'outiller ces guichets Rénov' Occitanie pour les accompagner dans le cadre de cette mobilisation. Alors, cela, comment ça va se traduire? Finalement, nous, on va proposer tout un tas d'outils d'animation qui va leur permettre finalement de mobiliser les professionnels. Ça peut se traduire par des appuis méthodologiques pour mettre en œuvre cette mobilisation, pour bien finalement comprendre quelles sont les étapes de mise en réseau des professionnels. Ça va être aussi la proposition de modules d'animation sur des thématiques spécifiques en lien avec la rénovation de ces logements. Je pense par exemple à l'émergence, comment faire émerger des offres globales de rénovation. C'est vrai que Philippe l'exprimait, hein, il y a le sujet de la rénovation énergétique et nous essayons finalement d'amener ces professionnels en lien avec les guichets Rénov' Occitanie à se poser la question d'une rénovation beaucoup plus globale qui va intégrer davantage de paramètres. Nous allons aussi leur proposer des modules d'animation sur la prise en compte du confort d'été.
Oui, donc, qui est un sujet majeur, hein, en particulier dans votre région, et parfois encore pas suffisamment traité, c'est ça?
Eh bien, disons qu'on commence quand même beaucoup à en parler. Ce qui manque aujourd'hui, peut-être, effectivement, ce sont des outils, ce sont une manière, finalement, d'approcher ces rénovations. C'est ce que l'on peut constater hein, à travers les retours d'expérience que nous collectons, qu'effectivement, c'est encore un sujet qui mérite qui mérite une sensibilisation auprès des acteurs professionnels. Autre sujet aussi qui est extrêmement récurrent dans les demandes qui nous sont faites de la part des territoires, c'est finalement comment mieux aborder une réhabilitation performante du bâti ancien, voilà, avec toutes ces caractéristiques pardon, qui sont très spécifiques.
Alors vous avez un autre outil aussi pour tout ça, c'est l'OCRE, l'Observatoire de la rénovation énergétique en Occitanie.
Voilà. J'y venais. En fait, tous ces outils d'animation que nous bâtissons, on ne part pas de rien. On part de l'OCRE, qui est l'Observatoire de la rénovation énergétique en Occitanie, qui, à ce jour, finalement, observe près de 2000 rénovations de logements individuels en région et qui nous permet vraiment d'identifier déjà les tendances, mais aussi, finalement, quelles sont les pratiques de rénovation dans notre région et de pousser le curseur là où il nous semble, là où nous détectons finalement des besoins. Cet outil, pour nous, il est vraiment au cœur de la mise en place de notre politique d'animation et de sensibilisation des professionnels sur ce sujet-là. Et c'est un outil qui est absolument majeur pour finalement nous accompagner dans la mise en place de nos feuilles de route.
Donc vous passez au crible quoi, des rénovations, c'est ça ? Vous identifiez les retours d'expérience et finalement ça peut servir à d'autres.
Tout à fait. On passe au crible les rénovations. Alors, on a différents modes opératoires finalement pour observer ces rénovations. Nous nous rendons aussi régulièrement sur le terrain pour aller constater de manière réelle finalement quel va être l'impact de ces rénovations sur la consommation des ménages, mais aussi sur le confort qu'ils ont. Les gains en termes de confort qu'ils ont pu avoir et donc nous avons nous regardons aussi certains aspects des rénovations qui pourraient intéresser certains de nos territoires partenaires.
Alors quelques mots et je vais passer la parole à Philippe Gonzalves parce que j'ai d'autres thématiques aussi à aborder et je vois le temps qui file pour tout vous dire, mais allez-y, terminez votre commentaire.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le cadre de cet appui au territoire, nous avons mis en place une assistance en ligne que nous appelons le PRIS Pro et qui permet finalement de répondre aux questions des professionnels qui font face à des problématiques techniques, etc., dans le cadre de ces chantiers de rénovation, et des groupes de travail au niveau régional avec l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés des acteurs professionnels qui sont mobilisés sur ces chantiers de rénovation, que ce soit les entreprises et les artisans, bien sûr, mais également les bureaux d'études, les architectes et tous les réseaux d'accompagnement afin d'identifier quelles sont finalement les pistes d'amélioration, les éléments, les outils à mettre en place pour accompagner au mieux ce dispositif Rénov' Occitanie.
Alors merci pour... Il y a beaucoup de choses, évidemment, on a compris que c'était une région qui était très active, beaucoup de choses à balayer, mais on a aussi beaucoup de sujets et de thématiques ce matin, donc désolé si j'accélère un petit peu, mais je voulais faire réagir déjà Philippe Gonsalves à l'accompagnement des professionnels, et il faut faire revenir aussi sur particulièrement ce que vous avez fait sur la question de l'usage, hein, qui va permettre aussi à Raphaël Viennot et à Ilona Pior de commenter. Donc d'abord sur l'accompagnement.
L'accompagnement, effectivement, il est essentiel parce que nous devons tous monter collectivement en compétence sur ces enjeux-là. Et donc, effectivement, ça embarque le chenon entreprise, maîtrise d'œuvre, etc. là-dessus, et nos maîtres d'ouvrage. Et là, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils performants et des retours d'expérience qui sont assez intéressants, sur lesquels on peut s'appuyer et vraiment pousser des projets aujourd'hui de très haute qualité. Donc ça, effectivement, on a la chance d'avoir aujourd'hui une région très dynamique sur ces questions-là et des acteurs qui sont vraiment engagés.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je disais qu'il y avait beaucoup de choses à balayer et à dire. Ouais. Alors revenons à votre projet et donc la notion aussi, l'importance des usages.
Oui, alors c'est assez facile aujourd'hui à mettre en valeur, si ce n'est de le ramener à l'actualité que nous connaissons encore malheureusement sur cette question sanitaire, qui fait que ces engagements, ces confinements rallongés ont re-questionné la qualité de nos habitations. Hein. Ça fait un moment qu'on en entend parler. Et là, effectivement, au-delà de la qualité intérieure des logements, c'était ce qui ressort énormément actuellement, c'est la relation à l'espace extérieur, cette capacité et surtout dans notre région, qui est encore plus importante sur cette relation à l'extérieur, à la nature, etc. Et donc, ce projet ici a fait l'objet de ce questionnement en profondeur, donc en rajoutant des espaces supplémentaires au travers d'élargissement de balcons et pour créer de vraies terrasses utilisables. On a créé des terrasses de quasiment 9 mètres carrés pour chaque logement. Et ça,
il y a eu aussi un dialogue avec il y a eu un dialogue, un échange aussi avec les habitants sur cette question. Il y en a encore un maintenant. Vous parlez de résultats aussi positifs en termes de réduction de la consommation d'énergie. On les implique aussi dans ces questions-là?
Oui, alors comme il s'agissait effectivement d'un bâtiment mené par un bailleur social, il était durant tout le processus de conception, on a travaillé avec les occupants de l'époque pour déjà expliquer globalement les interventions du projet et quels étaient les objectifs. Parce que tout projet de rénovation de ça en site occupé aussi est source de désagréments et puis d'angoisse pour les occupants et qui peut se perdurer sur un an, voire deux ans. Donc, il était absolument nécessaire de les intégrer dans le process, de voir avec eux au mieux le mode d'opération et d'intervention à l'intérieur de logement, parce qu'évidemment qu'on est aussi intervenu à l'intérieur de logement pour faire des rénovations électriques, réaménagement des salles d'eau, etc. Donc, une rénovation très complète. Et donc, travailler au cas par cas avec eux. Et puis, du coup, les questionner sur les orientations d'amélioration d'usage que l'on avait visé, donc à travers ces espaces extérieurs, et puis cette amélioration du confort acoustique en même temps, ce qui nous avait amené effectivement à développer en innovation sur ce projet-là des systèmes d'ouverture mixte qui permettaient à la fois de venir fermer une façade complètement et donc se protéger de l'acoustique et puis avoir un tampon thermique supplémentaire. Et puis la capacité de pouvoir l'ouvrir si nécessaire et donc pour profiter des espaces extérieurs. Donc ça, c'était effectivement toute une démarche que l'on a menée avec eux. Aujourd'hui, le retour effectivement à travers le portefeuille, on va dire, est très flagrant à la fois pour les locataires, mais aussi pour le bailleur. Puisque le coût global de l'opération a été largement mené à travers toutes les réductions en fait de maintenance sur le projet, hein, sur le système technique, puisque le système technique mis en place par la géothermie, au-delà d'être économe, est en plus très économe en maintenance, et donc un impact direct sur les charges de copro là-dessus. Il y avait aussi la mise en place des panneaux photovoltaïques, qui ont amené du coup une production. On était à l'époque sur un cas de revente sur réseau, donc une source supplémentaire aussi pour la copropriété. Et un autre élément important que l'on a amené, c'est effectivement dans ce rapport de relation entre le bâti et l'espace public, on a re-questionné le socle du bâtiment qui était un rez-de-chaussée très, très infâme, avec uniquement des box voitures, assez peu utilisé d'ailleurs et qui du coup a mené des relations très médiocres avec le piéton et l'accès à l'immeuble. Et donc on a transformé ce socle-là en socle commercial, donc qui voilà, du coup, s'ouvre sur la ville et qui en plus de ça amène un revenu supplémentaire aussi aux bailleurs. Donc tout ceci implanté dans une vraie réalité économique à moyen et long terme sur une notion de coût global, qui a permis d'amener des choses très qualitatives sur l'usage du bâtiment.
Voilà, alors la question des usages aussi, Raphaël Viennot, c'est notamment un axe majeur avec l'appel à projet NoWatt. Hein.
Oui, l'appel à projet NoWatt, en fait, ça a été l'un des premiers dispositifs dans lequel on a intégré en fait la participation des futurs usagers du bâtiment comme un critère, on va dire, essentiel de la démarche, pour soit construire ou rénover donc des bâtiments économes et sobres en ressources. Alors c'est en Occitanie, je crois, qu'on a vu naître d'ailleurs le premier collectif des assistants à maîtrise d'usage, donc avec cette notion vraiment d'accompagner les usagers sur leur questionnement, voilà, quels sont leurs besoins, et d'intégrer donc les besoins des usagers dès la conception du bâtiment, et de faire en sorte qu'ils soient complètement partie prenante de la conception à la réalisation et puis du bâtiment, et bien entendu à l'exploitation, puisque c'est eux qui donc vivent et habitent donc le bâtiment. Donc, on a eu, par exemple, des projets très intéressants. Alors, c'est vrai que, notamment, on le voit, le champ des écoles est un lieu, on va dire, assez intéressant pour mobiliser, on va dire, l'ensemble de la communauté, des parents d'élèves, aux élèves, aux enseignants, aux gestionnaires, pour, on va dire, concevoir, en quelque part, l'école de leur rêve, donc avec l'architecte, la maîtriseur, bien entendu, pour que cette école donc réponde parfaitement à leurs besoins. Donc on a eu voilà des projets très intéressants qui ont été réalisés en Occitanie. Il y a bien entendu l'habitat participatif. Hein. Mm-hmm. Donc là, on est vraiment en plein dans le sujet, hein, puisque ce sont les habitants qui voilà, participent directement à la conception de leur habitat, avec donc pas mal de projets aujourd'hui qui émergent aussi sur le territoire régional. Donc c'est vrai que ce paramètre, donc prise en compte des usagers dès la conception, on va dire même l'idée même de bâtiment, donc c'est bien entendu la vocation même de l'architecture, mais on le voit que là, ils sont vraiment partie prenante de toute la démarche. C'est quelque chose donc qu'on appuie, qu'on encourage, parce que on voit que souvent, ce sont effectivement les projets les plus riches, non seulement, enfin, au regard de la réalisation, bien entendu, mais aussi de l'aventure, hein, qui est cette aventure collective de la construction, de la rénovation d'un bâtiment, quel qu'il soit.
Alors, je disais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, hein, sur la région. C'est un peu la difficulté de l'exercice ce matin. Ilona Pior, quand même, un mot aussi de la démarche bâtiment durable, hein, en particulier en Occitanie, puisque j'en parlais avec Philippe Pelletier, qui a souligné aussi l'importance aussi des territoires dans toute la démarche. Donc, plan bâtiment durable.
Alors attention, ne pas confondre plan bâtiment.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas la même chose. Exactement. Allez-y. Voilà.
On pourra dire un mot de conclusion, ouvrir sur plan bâtiment durable Occitanie. Voilà. Mais là, je vais me permettre de d'abord parler de la démarche BDO, comme on l'appelle en Occitanie, bâtiment durable Occitanie, qui vient effectivement s'articuler parfaitement avec le dispositif financier NOWAT que vient d'évoquer Raphaël. La démarche BDO, c'est une démarche qui est à la fois une démarche d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, mais aussi d'évaluation de leurs projets. Bon, là, en l'occurrence, on parle de rénovation. Ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est que le maître d'ouvrage, c'est une démarche volontaire pour le maître d'ouvrage, quand il s'engage en démarche BDO, finalement, il s'engage à faire suivre son projet de la conception jusqu'à 2 ans après la phase d'exploitation. Donc, on va venir effectivement 2 ans, une fois que le bâtiment est sorti de terre, voir comment finalement les usagers, les futurs habitants ou les futurs usagers, c'est un bâtiment tertiaire, se sont appropriés le bâtiment rénové. Et la démarche BDO est vraiment une démarche environnementale avec une approche globale. Et le sujet de l'usage, finalement, il est pris en considération dès l'amont du projet, dès la phase conception. Et ça, c'est très important. Et nous allons suivre cette prise en compte des futurs usagers ou des futurs habitants tout au long de la vie du projet, que ce soit au moment de la phase conception, de la phase réalisation et au moment de la livraison. Et dans ce cadre-là, effectivement, le référentiel auquel est adossée la démarche comporte tout un tas de critères sur cette thématique, des critères qui, par ailleurs, je tiens à signaler, sont renforcés cette année au regard des enjeux que l'on constate sur cette prise en compte des usagers au regard de la performance des bâtiments une fois livrés, rénovés et livrés. Dans ce cadre-là, on a vu en démarche BDO, aujourd'hui, c'est à peu près 120 projets qui sont accompagnés. Je dirais qu'un bon tiers de ces projets sont des projets de rénovation et on a des opérations qui sont tout à fait intéressantes, je dirais même exemplaires sur la prise en compte des usagers. Raphaël a cité plusieurs exemples, effectivement, dans les bâtiments éducatifs, dans l'habitat participatif. On a vraiment de très jolis projets de rénovation aussi sur ce sujet-là. Et je rajouterai aussi sur tout ce qui est rénovation en site occupé. Notamment, les bailleurs sociaux sont quand même, je dirais, assez performants sur ce sujet-là. Et généralement, savent parfaitement se faire accompagner pour accompagner les, justement, pour suivre les habitants dans ces projets de rénovation qui peuvent être lourdes et extrêmement impactantes dans leur quotidien.
Alors, c'est ce que disait Philippe Consalves. Alors, un mot, j'ai bien compris, hein, bâtiment durable Occitanie, il ne faut pas confondre avec le plan bâtiment durable Occitanie. Un mot sur ce point-là, Ilona Pior. Voilà. Et peut-être Raphaël Viennot qui pourra réagir aussi.
Alors, plan bâtiment durable Occitanie, c'est finalement la déclinaison régionale de plan bâtiment durable qui est donc présidée effectivement par Philippe Pelletier. C'est une démarche, je pense que Raphaël aurait été peut-être plus à même d'en parler que moi, qui est initiée par la région Occitanie. Et là, en partenariat avec l'ADEME et l'ADREAL, et l'animation de ce plan bâtiment durable Occitanie a été confiée à Envirobat Occitanie. Dans ce cadre-là, nous avons le plan bâtiment durable Occitanie est vraiment là pour mettre en exergue les acteurs professionnels du bâtiment, de l'aménagement, engagés dans les transitions, mettre en avant les opérations significatives, mettre en avant les innovations, ouvrir aussi un nouvel espace de dialogue pour ces acteurs à travers l'animation de communautés d'acteurs thématiques qui vont porter par exemple sur l'industrialisation de la rénovation avec la dynamique Énergie Sprong. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ça fait partie aussi.
Oui, je vous dis, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait balayer. Alors, on va juste demander un mot de conclusion à Raphaël Viennot. Je suis désolée, je vois le temps qui passe, hein, même si on peut se dire 45 minutes, il y a beaucoup de temps, mais l'Occitanie était vraiment à mettre à l'honneur. Peut-être un mot, et puis la conclusion, c'est que finalement, on voit à travers tout ce que vous faites, on parle de rénovation énergétique, mais vous êtes vraiment dans la rénovation, on va dire, durable et beaucoup, des enjeux beaucoup plus grands.
Oui, tout à fait. Enfin, il y a le sujet de la rénovation, il a aussi du sens s'il s'inscrit dans quelque chose de plus durable. Et ça a été dit, il y a le bâtiment, mais il y a aussi l'aménagement du quartier. Il y a tout ce qui est aussi une réflexion assez forte et qui est aussi conduite dans le cadre du plan bâtiment durable, l'usage donc de matériaux biosourcés. Toute la notion, et ça a été abordé, je crois, lors de l'atelier précédent, d'économie circulaire aussi, hein, de réemploi. Donc, on voit bien qu'en fait, le bâtiment, c'est un champ applicatif qui est vraiment intéressant pour tester, en fait, aussi de nouveaux sujets et qui peut être un peu, on va dire, locomotive aussi pour aborder de nouvelles thématiques. C'est aussi un peu ça le sens du plan bâtiment durable, d'innover, de fédérer les acteurs et puis d'être un peu, on va dire, à l'avant-garde sur ces sujets-là. Et on voit que le champ exploratoire, il est aujourd'hui effectivement immense. Il y a toute, je viens de le dire, la notion aussi de limiter, on va dire, l'empreinte climatique, toute la notion de bas carbone, de réemploi, limiter aussi le prélèvement de ressources. Voilà, donc je crois que le chantier est largement ouvert. La rénovation énergétique, ce n'est qu'un aspect, mais on voit bien que le bâtiment, en fait, prend vraiment toute sa part dans ce défi qui est celui de la transition énergétique et climatique.
Ce sera le mot de la conclusion. Merci à vous, Raphaël Viennot, directrice adjointe transition énergétique et économie circulaire au sein du Conseil de la région Occitanie. Ilona Pior, directrice d'Envirobat Occitanie, et Philippe Consalves, architecte cofondateur de Seuil Architecture. Alors, désolé si parfois j'ai un peu accéléré le mouvement. Vous avez beaucoup de choses à dire sur la région, mais on a aussi beaucoup de sujets à traiter ce matin dans ce rendez-vous du Mondial. Donc, on marque une courte pause et on va revenir sur la RE 2020 avec un nouveau décryptage. On va justement parler d'un impact carbone du bâtiment.
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.